avec Yves Carras sur BTLV.
Et on est déjà au mois de novembre 2015, comme ça passe vite le mardi 3 novembre. Salut Mathieu.
Salut Yves.
Bonsoir tout le monde.
On est là pour vous, il est là pour vous. Alors vous le connaissez peut-être déjà si vous avez écouté des précédents podcasts que Bob avait enregistré avec lui. Il s'agit de Roger Cellier que j'accueille ce soir. Bonsoir Roger.
Bonsoir Yves.
C'est un plaisir de vous recevoir. C'est vrai, moi j'étais très jaloux. Je suis Bob l'a reçu trois fois, moi pas du tout. Alors que j'avais des tas de questions à vous poser, un petit peu différentes de Bob, parce qu'on a une sensibilité différente. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, vous êtes ici pour nous parler de. Oh, avant l'émission, on va pas vous dévoiler des secrets, mais on parlait de votre parcours de vie professionnel exotique. J'ai dit que vous avez un parcours pas normal qui vous a amené au paranormal.
On peut dire ça. On peut le voir comme ça aussi.
Oui. Voilà, vous disiez, ouais, de temps en temps, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là quand même? Finalement, la vie vous a amené peut-être là-haut, ils vous ont posé à des endroits et ils vous ont amené jusqu'au micro de BTLV quelques années plus tard. Parce que c'est vrai que parfois vous vous sentiez un petit peu guidé.
Ouais, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer comme ça.
Roger Cellier, donc on va dire enquêteur paranormal, vous avez écrit pas mal de livres, dont notamment Au-delà de toute croyance. Vous avez un site, allez-y, rogercellier.com, c'est aussi intéressant à aller voir. Donc, on vous a reçu pour parler d'histoires paranormales, d'enquêtes paranormales, de fantômes et entités. Alors moi j'ai cherché un petit peu, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui n'a pas été révélé dans la personnalité de Roger Cellier? Notamment que Blaise Pascal vous a inspiré.
Oui, c'était le premier contact que j'ai eu par le biais d'une personne qui était tombée en transe et qui s'est mise à parler, qui m'avait invité chez elle. C'était une dame qui s'appelait Giski d'ailleurs. Et puis, ce jour-là, j'étais. Quand cette dame est tombée en transe devant moi, j'étais plus qu'étonné. Je me demandais ce qui se passait. Et puis, la voix qui se dégageait de cette personne n'était plus du tout la même. La dialectique était assez dite très différente et d'époque, puisque Blaise, Blaise Pascal, c'était dans les années 1600 et quelques. Moi, je ne savais pas qui c'était ce monsieur qui se communiquait comme ça. Et j'avais dû d'ailleurs voir ça dans la littérature, dans les livres qu'il a écrits, qu'il a laissés derrière lui. Et j'ai donc appris qui était Blaise Pascal après avoir cette communication.
D'accord.
Avec lui.
Ah ouais.
Ouais.
Étonnant.
Bien sûr, c'est étonnant. Hein?
C'est que le début. Hein?
J'étais le premier étonné. Mais cette médium m'avait demandé d'apporter un magnétophone
à l'époque.
Et j'étais tellement surpris, disons, de cette chose-là qui se passait devant moi, que j'avais oublié de mettre en marche mon magnétophone. J'ai seulement enregistré, je crois, les dernières minutes, c'est tout.
Incroyable.
Mais bon, voilà. C'est le premier contact que j'ai eu, disons, avec des entités. Et puis par la suite, ça a été beaucoup plus loin. J'ai voulu creuser un peu plus. J'ai voulu en apprendre davantage. Et puis c'est en creusant comme ça, ça m'a permis d'aller plus loin, beaucoup plus loin.
Ah ouais, très très loin. Vous avez des centaines d'heures d'enregistrement télé, enfin images et audio.
Vidéo, oui.
Vidéo.
Audio et vidéo.
Faut pas les laisser perdre, hein. Il faut vraiment, on va en faire quelque chose avec BTLV. On en discutait pour une émission de télé, des extraits que vous commenterez, d'incorporation. Vous avez filmé.
Pour ça, j'ai toutes les archives qu'il faut. Et je le disais tout à l'heure, j'en ai souvent parlé d'ailleurs à des personnes qui s'intéressaient de près ou de loin à cette chose que l'on appelle la médiumnité. Mais quand je dis que j'ai des archives, je m'attends toujours à des personnes qui demandent à voir, qui demanderaient à voir, ce qui n'est pas le cas forcément. Mmh. Les gens appréhendent d'aborder le sujet sans doute, parce qu'après tout, ça a un rapport avec la fin de vie, quoi, avec la mort. Quand on sait d'ailleurs où ça va après, on n'a plus peur de tout ça. Malheureusement, il y a des gens qui ont encore, disons, qui pense qu'après il n'y a que le néant. Mais c'est pas, pour moi, c'est irréversible. Ce n'est pas le néant, c'est il y a des. Comment peut-on appeler ça? Des vies parallèles, des mondes parallèles qui se communiquent à nous comme à travers ces médiums d'ailleurs. Mmh. Hein? Voilà. Ou alors les gens qui font de la TCI, etc.
Donc les âmes que nous étions sur Terre, enfin les personnes physiques, continuent d'exister dans d'autres mondes, vous avez eu contact avec elles.
Oui, tout à fait. Évidemment. Autrement, on n'aurait pas de contact.
Ouais, normalement.
Mais ces contacts, Il y a quand même malgré tout des millions de personnes dans le monde qui ont ces contacts avec des disparus, avec des gens qui sont décédés ou des entités qui se manifestent comme ça pendant soit des réunions ou à des médiums. Mais il y a médium et médium aussi. Moi je n'ai jamais eu vraiment affaire à des médiums qui vous prédisent l'avenir ou des trucs comme ça, ce qui ne m'a jamais intéressé d'ailleurs personnellement. Mais des médiums qui ont des dons beaucoup plus extraordinaires comme l'incorporation ou alors les matérialisations. C'est beaucoup plus intéressant.
Ouais, vous avez filmé et enregistré des incorporations.
Oui, absolument, j'en ai beaucoup. Avec des entités de plusieurs nationalités quand elles étaient vivantes, bien sûr, quand elles étaient de notre monde.
Ouais. Vous m'expliquez même que
anglais ou allemand ou japonais, ouais, alors que espagnol aussi.
Alors que le jeune médium qui était incorporé avait 23 ans, vous saviez qu'il ne parlait pas les autres langues et même plus, vous disiez si. M'avait dit avant l'émission, hein, voyez, hein, on prépare un petit peu aussi comme ça, que si l'incorporation était faite par un musicien, on amenait l'instrument de musique qu'il jouait lorsqu'il était sur cette terre au médium et il en jouait alors qu'il l'avait jamais touché.
Voilà, ce qui prouve bien que ça ne pouvait pas être le médium. En fait, il quitte son corps, il laisse la place à quelqu'un d'autre.
Ouais.
Et c'est ce quelqu'un d'autre qui a eu, disons, son temps sur terre. Et qui avait appris, disons par exemple, à jouer du violon ou à jouer de la guitare ou n'importe quel autre instrument, qui, oui, on pouvait apporter cet instrument à cette entité et il nous jouait en incorporation, bien sûr, soit du piano, soit du violon, voilà.
Incroyable, hein.
Oui, bien sûr.
Ça a dû vous remuer.
Et même, disons, de parler une langue étrangère comme ça. Le médium n'avait jamais appris l'allemand ou l'espagnol ou l'anglais principalement ou l'américain. Et ça apporte quand même du crédit à ces archives que j'ai, moi, que je possède et qu'on peut, je vous dis qu'on peut visionner. J'espère d'ailleurs pour vous que
oui, on aura
l'occasion de le revoir ou d'enregistrer tout ce qui nous intéresse pour ça.
On va le faire, on va sélectionner ça, on va proposer justement des dans une émission de télé avec Bob, on va faire ça, ou pendant un live aussi, on pourrait faire ça, comme ça vous pourriez réagir. En tout cas, elles seront pas perdues et certainement pas pour BTLV. Ça, c'est bien. Au sujet de Blaise Pascal, j'aime bien, vous dites dans votre site, justement, à Blaise Pascal, avec l'émotion passionnée que je porte à cette attitude admirée par tous ceux qui croient en cette démarche des hommes, et cette phrase-là qui est citée juste avant, bien que parfois partisan de certains enseignements, il n'a gardé au sujet de Blaise Pascal dans le cœur que celle qui pouvait rapprocher les hommes entre eux.
Oui, c'est ce qui m'a fait écrire cette chose-là, ce qui m'a inspiré beaucoup, disons, c'est le livre qu'il a écrit, un livre qui existe sur Blaise Pascal. C'était comment c'était de le livre
écrit par Blaise Pascal ou pour
oui,
Blaise
non,
Pascal?
Non, c'était des lettres à un provincial.
D'accord.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre-là,
non.
De Blaise Pascal. Alors, à l'époque, du moins à son époque, il avait écrit des lettres qui mettaient les jésuites en porte-à-faux avec la religion.
Pas une bonne idée à l'époque.
Non, c'était pas une bonne idée là. Hein. Parce que c'était les jésuites, vous savez, c'était ceux qui s'occupaient de l'éducation des princes, des rois, etc. Et il a failli d'ailleurs être embastillé à cause de ça. Mais il avait fait imprimer ces lettres qu'il sortait de temps en temps, je crois en Hollande ou en Belgique, je ne me rappelle plus très bien, mais ça revenait en France et c'était distribué, disons, à des nobles principalement, qui riaient aux éclats parce qu'ils se moquaient justement des jésuites. Pourquoi les jésuites? Parce que ils les avaient interrogés assez longuement sur la religion, et puis ces jésuites donnaient l'absolution à des nobles contre de l'argent contre des pièces sonnantes et trébuchantes, et il acceptait pas, disons, que ça puisse se faire comme ça, quoi. Alors il avait vraiment écrit, si vous avez l'occasion d'acheter le livre de Blaise Pascal, Lettre à un provincial, moi je crois Blaise est un homme plutôt sérieux. À une époque on étudiait, disons, les Blaise Pascal dans les universités. Mais c'est moins connu peut-être, ce livre-là. Mais on peut le trouver.
Et d'accord.
Moi qui croyais que cet homme-là était tellement sérieux, quoi, parce qu'il était plutôt très sérieux, et ça m'avait fait rire aux éclats. Je ne revenais pas qu'il était capable de raconter les choses comme ça.
Il se moquait un peu de la religion et en même temps il mettait la spiritualité dedans.
Il s'occupait, il était très croyant. Oui, il était très religieux aussi. Et il n'aimait pas du tout que l'on se moque un peu de la religion. Il essayait de défendre certains esprits religieux qui étaient très connus à l'époque. Et puis, c'était tout ce qu'il a fait était assez noble malgré tout. Il s'est jamais marié. Il était pas. Enfin, si on parle de Blaise Pascal, quoi.
C'est étonnant cette relation que vous avez avec lui finalement, parce que c'est le premier qui est venu vous voir pour l'incorporation.
C'est le premier qui est venu me voir et qui m'a prévenu à ce moment-là que d'autres entités, des entités qu'il qualifie de supérieures, se manifesteraient plus tard à moi. Et ça s'est fait effectivement par la suite.
Vous sentez, alors la question qu'on pose souvent, c'est pourquoi vous sentez un petit peu élu, sans donner du tout, non, oui, justement, sans donner une notion un petit peu de hiérarchie, hein, est-ce que vous sentez choisi, on va dire.
Effectivement.
Quand même, hein.
Bah oui, quand même.
Quand parce même
que,
un peu.
Oui, j'ai eu des expériences qui sont que beaucoup d'hommes, que beaucoup de personnes sur la Terre n'auront peut-être jamais. C'est vrai, il y a ça. Mais de là à me sentir un élu, disons que je
un choisi, on va dire.
Ouais, je n'aime,
désigné.
Je n'aime pas trop le qualificatif. Mais oui, c'est vrai. On peut dire que j'ai vécu des choses avec des entités, avec l'au-delà, avec des médias, avec certains médiums que l'on peut qualifier d'exceptionnels, qui ne sont pas du tout courants, quoi. Mm-hmm. Pas du tout courants. Quand on parle de la médiumnité par incorporation. Quand on parle de la médiumnité par matérialisation, c'est bien autre chose que la médiumnité ramenée à son simple, au simple mot de médium pour dire ça y est, je communique avec votre parent, il vous dit ça, il vous dit ci. Ça, je n'ai jamais abordé ce sujet, c'est pas ça qui m'intéressait. J'étais beaucoup plus attiré par vouloir comprendre le phénomène en lui-même, comment c'était possible, parce que c'est vrai que je me posais beaucoup de questions, même déjà petit.
Ouais.
Je me posais des questions.
Quel enfant vous étiez ?
Oh, j'étais pas le premier de la classe. j'étais assez turbulent. J'étais pas le premier. J'ai jamais été le premier de la classe.
Vous avez chauffé le radiateur, quoi. Vous étiez pas loin. Voilà, ça c'est toujours bien.
Oui, à l'époque, oui. Mais par contre, alors, ma première question de bizarre, du moins pour les autres. Je sortais de classe et en rentrant chez moi. J'entendais encore le maître d'école qui nous disait voilà, vous voyez des étoiles la nuit et certaines peut-être n'existent plus. Alors il nous avait expliqué pourquoi. Bon, le son a une certaine vitesse qui se propage dans l'air, etc.
La lumière,
la vitesse de la lumière. Alors des étoiles peut-être n'existent plus, mais nous on continue à les voir. Oh là là, je dis ça, je commençais ça m'avait plutôt inquiété, mais vraiment inquiété. Et je me disais comme ça, mais alors si on posait un miroir sur la Lune pour voir ce qui se passe sur la Terre, on reviendrait un peu en arrière, peut-être un quart d'heure, des minutes en arrière, on remonterait le temps.
Ah, le temps que la lumière ouais. réfléchisse, tout ça. Hein. Ah, dis donc, ça cogitait pas mal.
Oui,
là,
oui, déjà
ah
ouais. Je devais avoir 8-10 ans. Oui. Et puis je disais, mais plus on recule le miroir sur une planète encore plus éloignée, on remonterait le temps encore plus. On verrait ce qui se passerait peut-être dans l'année d'avant ou des trucs comme ça. Ben voilà, c'était le genre de question quand j'étais petit que je me posais.
Il y a une théorie à développer là. Hein.
Oui, mais enfin ça c'était assez rigolo. Et c'était autre chose. J'étais encore jeune et je ne connaissais pas encore de médium ni rien du tout.
Cette hypersensibilité, ça, vous vous êtes senti différent? Déjà à l'époque, quand on est dans les années 60 là.
Non, je vais pas dire différent, je vais dire privilégié.
D'accord.
Ouais, je me suis senti privilégié parce que c'est vrai, j'ai connu énormément de choses, j'ai vécu énormément de choses, et je me dis pourquoi, oui, beaucoup de personnes dans le monde ne pourront jamais, disons, vivre ou avoir, disons, l'expérience que j'ai de tous ces phénomènes, de tous ces phénomènes paranormaux. Qui m'ont fait écrire, d'ailleurs, ces deux, trois livres-là que j'ai écrits. J'ai eu ce besoin d'écrire, d'ailleurs.
Ouais, de communiquer, de transmettre,
ouais,
quoi.
Oui. Ouais. Comme l'homme face au paranormal, on se pose quand même beaucoup de questions sur le sujet. Disons, le paranormal, ça inquiète. Ça inquiète, et puis, on veut savoir qu'est-ce que c'est que ça, ce paranormal, pourquoi. C'est normal.
Non, d'ailleurs, c'est paranormal.
Oui. Et puis, moi-même, j'avais beaucoup de doutes sur tout ça. C'est pour ça que je voulais creuser, je voulais chercher à comprendre un peu plus. Et puis, ma foi, voilà, Internet, d'ailleurs, est un très bon outil pour ça.
Ouais, hein, bah, on a la preuve, hein, grâce à Internet, BTLV peut exister. Hein.
Par exemple, comme les photos d'ectoplasme, on en voit sur Internet, le mot ectoplasme en lui-même déjà ouvre une porte pour savoir ce qui se passait dans les années 30. Ce que je disais, on pouvait prendre des photos à ce moment-là, des photos au jour, quoi. Mais maintenant...
Une identité, vous pouvez prendre des photos de...
Des photos des ectoplasmes, des entités qui se manifestaient.
Expliquez pourquoi, justement, on ne peut plus maintenant.
Pourquoi on ne peut plus ?
Pourquoi on ne peut plus prendre aujourd'hui de photos d'ectoplasmes ?
Ouais.
Il refuse.
Eh bien, d'abord, il...
Il y a Bob qui vient d'arriver dans le studio, voilà.
Bonjour, Bob.
Roger le salue.
Et puis... attendez, j'en suis.
La question, en fait, c'était, vous m'en avez parlé avant de commencer l'enregistrement, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Pourquoi les ectoplasmes refusent qu'on les filme, qu'on les prenne en photo maintenant?
Oui, alors, il y a, je ne me rappelle plus son prénom, mais une Anglaise qui s'appelait Duncan, D-U-N-C-A-N, qui vivait jusqu'à. Elle est décédée pendant. Dans les années 44-45, je crois, juste après la guerre, ou pendant la guerre. Elle avait travaillé pour les services secrets. Elle avait mis ce don de médiumnité au service des services secrets.
D'accord.
Mais ça dérangeait beaucoup de monde parce que justement, elle était capable de matérialiser aussi des entités. Et ça, il y avait des journalistes qui voulaient absolument.
Les journalistes.
Qui ont voulu, disons, un peu la descendre. Et puis avec la police. Ils ont pu, disons, entrer chez elle pendant une séance de médiumnité, de matérialisation.
Par surprise.
Et ils ont pris des flashs.
Les gros flashs de l'époque, là.
Des gros flashs de l'époque. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, disons, c'est très dangereux pour les médiums de ce genre. Et elle est décédée quelques heures après. À cause de cela, les entités ne veulent plus qu'on les prenne en photo. À partir des années, des années 30-40, on ne peut plus les prendre en photo parce que ça se passe plus ou moins dans la pénombre, à moitié dans le noir, seulement avec éventuellement une petite lampe rouge, comme dans les studios de photos, pour développer les photos avant. Comment on faisait ?
Donc Roger, là vous êtes en train de nous dire que dans un monde parallèle, il y a des entités qui ont décidé, suite à cet accident, de ne plus laisser photographier. Alors, pour pas mettre en danger certains médiums. Le fait de dire ça, ça va alimenter ceux qui disent ça. De toute façon, c'est une supercherie. Ouais, on sait que ça marche pas. Ouais. Justement, ils en profitent pour être dans la pénombre. Ça va alimenter ça.
Mais ça va peut-être venir. En discutant avec eux, je crois qu'ils espèrent que ça puisse être possible encore dans le futur de pouvoir de nouveau prendre des photos de ce genre.
Vous avez serré la main.
Ah oui, non, mais ça c'était effectivement.
Vous avez serré la main d'un ectoplasme.
Oui.
Quand même.
Oui, non.
C'est pas donné à tout le monde. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu choisi quand même, là, hein, un peu désigné quand même. Hein.
Oui, je pourrais d'ailleurs plus ou moins raconter comment ça s'est passé.
Bien sûr, bien sûr.
Dès le début.
Allons-y, bien sûr. Racontez toute l'histoire.
J'étais à l'IMI. L'Institut Métapsychique International, qui dépend, disons-le, hein, du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement français, qui, eux, font des expériences avec certains médiums pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, s'il y a une réalité quelconque à tout cela, etc. D'accord. Et en visitant leur laboratoire, je vous le disais tout à l'heure, Yves, il y avait un moulage de mains en plâtre qui se trouvait sous un globe en verre dans leur laboratoire. Je m'étais arrêté et j'avais demandé au président de l'IMI, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est sous un globe en verre? Et il m'a raconté qu'un médium qui s'appelait Klosky à l'époque, un Polonais, et on l'avait fait venir à Paris pour avoir, disons, pour pouvoir faire des études de laboratoire avec lui et puis pouvoir tester ses dons si c'était une réalité. Et ces ectoplasmes, en fait, et lui, il pouvait produire des mains avec des bras et des mains
La main et l'avant-bras.
Quoi. L'avant-bras qui se matérialisait véritablement.
Matérialisait.
Oui, qui se matérialisait.
Donc l'énergie
ça,
était suffisamment...
C'est pas moi qui le dis.
L'énergie était suffisamment concentrée, dense pour se matérialiser.
Voilà, ils avaient un protocole pour ça. Ils avaient demandé à l'entité et au médium s'ils étaient d'accord pour qu'on puisse prendre des empreintes de leurs mains. Ils ont accepté. Ils ont mis en place un protocole, c'est-à-dire avec un seau de paraffine liquide dans lequel les entités ont plongé les mains et en les ressortant, disons, les mains se sont dématérialisées pour laisser des gants de paraffine qui ont permis de pouvoir faire des moulages en plâtre, etc. C'est expliqué sur leur site.
Ouais, ouais, ouais. Hein? Rien que ça, venant de l'IMI, c'est énorme.
Bah oui, c'est énorme.
C'est énorme. Le monde entier devrait être secoué par des trucs comme ça. Non mais c'est vrai. Le monde entier devrait se dire, c'est comme les scientifiques disent que la physique quantique devrait révolutionner notre quotidien, on devrait arrêter de penser avec les anciens paradigmes. Mmh. Ça devrait tout changer, quoi.
Mais sur le site d'ailleurs de l'IMI, on peut voir les photos de ce moulage de main en plâtre. Et puis aussi voir comment ils ont procédé, le protocole qu'ils ont utilisé pour réussir ce genre d'exploit, je dirais.
Ah ouais,
un exploit.
Ouais.
Mais à partir de là, moi-même, je me suis plutôt interrogé et je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve un médium qui est capable de faire ce même genre de choses.
Parce que vous voulez voir.
Hein. Ah oui.
Vous voulez expérimenter.
Ah oui,
voir. C'est pour ça que vous êtes un enquêteur paranormal, d'ailleurs.
Moi, je voulais voir. Je dis, c'est gros. Bon, je connaissais déjà la médiumnité par incorporation, mais j'avais jamais entendu parler encore des matérialisations.
Ouais.
Et ça m'avait plutôt surpris. Et je voulais absolument, disons, gratter un peu plus loin pour voir si c'était vraiment possible. Alors, je le disais d'ailleurs aussi tout à l'heure, que j'ai demandé à des amis qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux, qui font de la TCI aussi, et qui m'avaient parlé d'un certain David Thompson, en Australie, à Sydney, qui était capable de faire ce genre de choses. Et c'est à partir de là que j'ai envoyé un mail à David Thompson. Je lui ai dit que j'aimerais bien écrire un livre là-dessus, est-ce qu'il sera d'accord pour m'inviter à une séance sur place. Et puis il m'a dit, j'ai tout de suite reçu une réponse en me disant, mais il n'y a pas de problème, vous venez quand vous voulez. Huit jours après, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti tout de suite à Sydney.
Carrément, on est dans les années quoi, 80 là, 90?
Non, ça fait pas longtemps. On est en 2015, ça devait être en l'an 2000 par là, il y a 5 ans.
Une quinzaine d'années, oui.
5 ou 6 ans.
Ah, 5 ou 6 ans, pas plus. Fin des années 2000.
J'ai écrit mon dernier bouquin justement là-dessus.
Oui, c'est ça, oui.
Sur les matérialisations. Et puis, donc, je suis arrivé là-bas, à Sydney, j'ai rencontré David, et qui m'a beaucoup questionné, pour savoir qui j'étais vraiment. Je connaissais déjà l'Australie un petit peu. Et puis, donc, j'ai assisté à une séance, et pendant cette séance, j'ai eu l'occasion vraiment exceptionnelle de pouvoir voir des entités se sont vraiment matérialisées. La première entité qui s'est matérialisée d'ailleurs, c'était un Australien qui devait avoir et qui devait être décédé depuis une centaine d'années. Et il est venu me serrer la main, imaginez.
Me serrer la main.
Oui.
Vous avez senti la pression sur la main.
Plus que senti.
Vous étiez dans une pièce éclairée, il n'y avait pas de doute ou
non. Il n'y avait pas de doute. On était dans la pénombre. Hein. Il y avait juste une petite lumière rouge, mais on voyait des ombres surtout. On pouvait pas voir de façon comme en plein jour.
D'accord.
Hein? Tout était les fenêtres, les portes étaient occultées, tout ça. Et ce monsieur donc est venu me serrer la main. Il avait une main un peu plus large que la mienne, légèrement moite, à température humaine, quoi.
Mm-hmm.
Pas de problème. Mm-hmm. Et ça m'a franchement.
Il n'y a pas de possibilité de supercherie parce que vous êtes dans la pénombre, parce que vous, je sais pas, on peut pas imaginer une main qui serait gantée de noir pour ne pas se faire voir.
On peut imaginer tout ce qu'on veut.
Je ne mets absolument pas en doute votre véracité, votre curiosité,
Je comprends bien.
Je cherche quoi.
Je comprends bien. On peut tout imaginer. Mais en ce qui me concerne moi personnellement, j'étais plus que convaincu. C'était trop réel, quoi, pour être quelque chose de comment on pourrait dire, pas de magique, mais de...
Issu de votre imagination.
Oui, non, c'était pas issu de... Non, parce que c'est quand même enregistré, tout ça. On s'est parlé aussi, hein, parce que quand ils sont incorporés, ils ne font pas qu'on ne fait pas que se serrer la main, on se parle, on discute. Mm-hmm. Il y a communication, je pose des questions, il me répond, etc. Tout ça, j'ai des cassettes audio pour ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, ça, c'était la première entité qui s'est manifestée, qui s'est matérialisée, dans d'autres aussi.
Alors, matérialiser, c'était pas une incorporation, hein, c'était une matérialisation en dehors du corps du médium. Hein.
Voilà, tout d'accord. À fait. Ouais. C'est ce qu'on appelle justement le phénomène d'ectoplasme.
Voilà, d'accord.
Hein? Okay. Ça, un ectoplasme, qu'est-ce que c'est? Ça sort par un des orifices du corps humain. Je dis bien un des orifices du corps humain.
D'accord.
C'est comme, disons, pas un nuage, on pourrait dire, ça devient, comment?
Une sorte de brume?
De brume qui s'épaissit, qui est cotonneuse, qui devient de plus en plus solide, on dirait.
Ouais.
Et qui va prendre des formes, et qui va commencer par une partie du corps humain, éventuellement le haut du corps, éventuellement le corps entier même. Et c'est ça le plus extraordinaire.
Vous avez vu ça?
Oui. Oui, non, je peux pas en douter, moi. C'est pas possible.
Ah,
pour moi, c'est irréversible. Mais comme vous dites, on peut tout imaginer pour ceux qui ne sont pas là.
Bien sûr.
Pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas assisté, qui n'ont pas, disons, vécu ce phénomène. Je comprends les difficultés qu'ils auraient à croire, en ce genre d'histoire. Pour moi, c'est pas une histoire, c'est réel, il n'y a pas de problème.
Vous avez expérimenté, c'est ça qui est intéressant.
C'est irréversible pour moi, oui. Mmh. Oui. Absolument.
Utile de vous demander si vous avez peur de la mort? Peut-être non. La façon de mourir, mais de la mort.
Non, pas du tout. Au contraire. C'est pas.
Oh, ne dites pas que vous l'espérez, quand même.
Bon, je le dirai pas alors.
Non, parce qu'on dit souvent que de l'autre côté, il y a autant de bons que de mauvais. Parfois, il y a du bas astral, des choses comme ça. Donc,
Tout à fait. Hein? Ah oui, tout à fait. Parce que justement, j'avais une cassette audio avec moi.
Oui, mais malheureusement, on n'a pas d'appareil pour écouter les cassettes.
Hein, malheureusement, mais c'est dommage, oui.
Pour une prochaine fois.
On pourra peut-être, l'enregistrer ou je sais pas. Mais cette entité qui était venue se manifester, avec qui j'avais discuté pas mal, et il me parlait justement, disons, des âmes qui arrivent dans l'au-delà et qui portent avec eux tout ce qu'ils ont vécu, en fait, toute leur histoire terrestre. Hein. Mm-hmm. Et ceux qui ont commis des crimes ou qui ont, disons, mal agi envers d'autres personnes, ils peuvent pas le cacher. On arrive là-bas, on est transparent comme tout. Toutes les autres entités savent ce que vous avez fait dans votre vie. Et ça, vous le portez avec vous comme, malheureusement, comme si c'était dur à porter, quoi.
Donc, il y a un karma.
On peut voir ça comme ça.
Il y a une note à la fin de nos actes terrestres, quoi.
Tout à fait.
Ah oui.
C'est la somme de vos actes qui va faire que quand vous arriverez dans l'au-delà, vous serez redirigé vers un monde qui vous conviendra mieux ou que vous mériterez. C'est selon la vie que vous aurez laissée derrière vous. La qualité de la vie que vous aurez laissée.
Ça se rapproche de pas mal de philosophie et religion, ça.
Oui, tout à fait.
Donc, ils se trompent pas sur tout, alors, finalement.
Oh là là, attention.
Alors, on va partir.
Moi, je suis pas du tout religieux.
On va partir sur le sujet juste après une petite pause, d'accord?
Ouais, d'accord.
Allez, okay. À tout de suite, Roger.
Ok.
On est là pour vous, avec Yves Cara sur BTLV.
BTLV, c'est sur l'onglet boutique, l'occasion de commander les vidéos du château de Fougeray, de Brocéliande, de Rennes-le-Château et des rencontres du mystère et de l'inexpliqué 1 et 2.
BTLV vous propose de partir à la découverte de votre troisième œil. Dans un lieu unique en France, le Zone Bien-être de Monco, vivez l'expérience Lucia, la première machine qui permet de modifier les frontières de votre conscience et d'accéder à des dimensions plus vastes. Les 26 et 27 mars prochains, vivez des expériences spirituelles et transcendantales rares et partez pour un voyage vibratoire avec les 27 bols de cristal chantants et autres instruments intuitifs. Attention, il n'y a que 20 places à votre disposition. Pour la réserver, rendez-vous sur btlv.fr, onglet événements. Un sujet à proposer, une envie de réagir? Envoyez-nous un mail à redaction@btlv.fr.
Et dans le mail, si vous le souhaitez, si vous avez envie qu'on vous recontacte derrière, vous mettez votre numéro de téléphone. Roger Cellier, toujours avec nous. Donc on partait là, donc je vous arrête sur les religions. Vous disiez, ben voilà, qu'une fois qu'on était passé de l'autre côté, fallait payer un petit peu la note de ce qu'on avait fait, en bon ou en mauvais. Et je vous disais que ça rejoignait tout ce qui était religion, philosophie. Donc tout n'est pas faux.
Toutes les religions, non. Hein, mais certaines, les principales religions, peut-être, oui. Moi, je ne pratique aucune religion. Ça ne m'est pas nécessaire.
D'accord.
Ça n'a aucune utilité pour moi. Mais disons que les religions, certaines religions peuvent être utiles, principalement quand elles veulent faire le bien autour d'elles. Il n'y a que ça qui peut, disons, être intéressant.
Est-ce que vous... Allez, je me lance. Allez, hein, vous me dites, ouais. Hein, je fais exprès de vous titiller. Hein. Oui. Est-ce que tout ce que vous avez vécu, expérimenté, a pu être passé au filtre de vos propres croyances? Et peut-être que si vous aviez d'autres croyances, vous auriez eu d'autres résultats pour vous?
Je n'ai pas vraiment eu d'autres croyances, mais comme beaucoup de Français, j'ai fait ma communion aussi, hein. Uh-huh. Et dans l'église où j'ai fait ma communion à Noël, il y avait c'est une anecdote, hein, que je fais là.
Intéressant, bien sûr.
À Noël, il y avait une crèche et la crèche, disons, montrait des bœufs, des ânes, tout ça, avec le petit Jésus, enfin les rois mages et tout le truc. Et pour moi, ça avait à cette époque-là, j'avais 13 ans, 13, ouais, 12, 13 ans. Et puis, je me faisais une idée de ce que je voyais et de ce que je croyais être vrai aussi. Mais j'ai été amené à pouvoir, disons, me rendre à Bethléem, là où est né le Christ. Je suis entré dans la cathédrale qui couvre la grotte. On peut donc descendre dans la grotte où est né le Christ, où est supposé né.
Supposé.
Supposé, oui, être où le Christ serait né. Et quand je suis descendu dans cette grotte, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout petit et je ne voyais pas du tout qu'on ne pouvait pas mettre une vache là-dedans. Ça tenait pas. Non, ça tenait pas debout. Tout ce que j'avais vu, disons, dans les églises chrétiennes. Qui m'apparaissait, disons, assez grand, assez fantastique. Disons, ça, c'était vraiment retombé à un point. Et à partir de là, j'ai voulu comprendre moi-même. Je me disais, oui, d'accord, il y a un créateur, sûrement. Il y a des hiérarchies là-haut, forcément. Il y a des hiérarchies, d'ailleurs.
Ah, il y a des hiérarchies.
Oui,
c'est un peu gênant de penser à ça, qu'il y a des hiérarchies. On imagine un monde où tout le monde serait responsable d'abord de ses propres actes, mais qu'il n'y aurait pas de hiérarchie. Ça me gêne un peu, moi, ça.
Non, il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies spirituelles qui sont dans l'au-delà, dans divers mondes. C'est selon la qualité de vie que vous aurez achevée, je dis bien achevée, quand vous aurez fait le total de tout ça, que vous serez redirigé vers un monde qui vous convient, ou éventuellement une réincarnation. Mais voilà, qu'est-ce que la réincarnation, le karma, etc.
Bon. Donc, vous, il y a réincarnation.
Oui, il y a réincarnation, si on veut... Mais pas du tout dans le sens où on l'entend, vraiment.
C'est-à-dire?
Ben justement, j'avais apporté la cassette, une cassette extrême.
Arrêtez, vous nous parlez de ça justement. Du mal, là, justement
à cause de ça.
Mais c'est ça le problème avec les technologies, quoi. C'est que autant les vinyles maintenant ça revient, autant les cassettes. Alors vraiment, quand on montre une cassette d'ailleurs à un gamin de 10 ans, il la regarde, il sait pas ce que c'est, il essaie de la manger.
Ouais. J'ai un lecteur de cassette dans ma voiture et pourtant.
On va pas pouvoir faire entrer la voiture dans le studio. Hein. Et vous avez peut-être une très vieille voiture.
Non, elle a une dizaine d'années quand même. À peu près.
Non, mais c'est vrai, sans plaisanter, au niveau des cassettes, tout ça, de ce que vous avez, on va voir comment on peut essayer de sortir un maximum d'archives intéressantes pour des prochaines émissions.
Oui, c'est une entité d'ailleurs à qui j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est que la réincarnation, tout ça. Et lui, il a une vision tout à fait, pas différente, mais presque, disons, à celle que nous avons ici, pour ceux qui croient en la réincarnation.
Ah, mais c'est pas à croire ou à pas croire, alors à ce moment-là, pour vous, c'est une réalité.
C'est une réalité, mais elle ne se passe pas du tout comme on pense.
Allons-y. Que vous ont dit les entités? Essayez de.
Ouais, je vais.
Pas évident, hein, parce que c'est.
Ils m'ont dit que c'était l'énergie vitale d'une entité, enfin d'un corps humain, qui, disons, c'est l'énergie vitale qui anime le corps humain. C'est cela qui se réincarne éventuellement, avec toutes les comment on peut dire, disons, tout ce que cette vie va colporter avec elle, parfois elle en entraîne une partie avec cette énergie vitale. C'est ce que me dit l'entité avec qui j'ai discuté de ça. Hein.
D'accord. Mmh.
Ça n'engage que lui. Moi, je veux bien le croire, mais enfin, on peut remettre ça en question éventuellement. Et il me dit que c'est ça qui se réincarne, mais que l'esprit, tout court, lui-même, si on veut, disons, communiquer avec un esprit décédé, et même si on croit qu'il est réincarné, il n'y a que cette énergie vitale qui s'est réincarnée, mais pas cet esprit qui reste.
D'accord.
Qui reste, disons, de façon ad aeternitam, pour toujours, mm-hmm. dans l'espace, quoi.
On se diviserait, il y aurait d'un côté l'énergie et de côté l'esprit de ce qu'on était sur Terre qui resterait là-bas et l'autre le...
Exactement, d'accord. Comme il y a dissociation du
une
corps
dissociation,
et de l'esprit.
D'accord.
Voilà, il y a une autre dissociation qui serait celle de l'énergie vitale qui a animé un corps humain, qui va réanimer encore une autre âme.
Bon,
c'est ce qu'il me dit, lui.
Hein. Ouais. C'était peut-être un menteur, peut-être un affabulateur. Hein. Il faut se méfier.
Il faut l'écouter.
Voilà.
Il faudrait l'écouter et puis, disons, s'en faire une opinion soi-même.
Mm-hmm.
Parce que ça ne veut pas dire qu'on nous raconte toujours la vérité. Hein.
Même les entités ?
Oui, il y a des entités qui ne sont, sont pas toujours fiables. Ça dépend à qui vous avez affaire. Et c'est surtout à ça qu'il faut faire attention. Il faut garder les pieds sur terre. Parce que... Le danger, justement, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de manifestation paranormale, c'est si jamais il a une communication avec l'au-delà, avec une entité qui va se faire passer pour Jésus ou pour n'importe qui, et puis alors...
C'est toujours quelqu'un d'important,
la personne,
en général.
Oui, enfin, pas toujours. Mais celui qui va écouter et qui va prendre ça pour dû, qui va y croire... et qui va croire vraiment dans tout ce qu'on va lui dire, ça c'est dangereux, parce que ça peut être quelqu'un qui se moque de vous, quoi. Qui veut jouer avec vous. Il faut faire attention aux entités qui se présentent. Moi j'ai toujours fait attention, j'ai pas forcément cru toujours à ce qu'ils disaient, mais à chaque fois que je les ai eus, si je les ai eus une deuxième fois, une troisième fois, je reviens sur le sujet que nous avons eu. Et puis, de façon plus ou moins à droite, j'essaie de recouper pour voir s'il dit toujours la même chose, ou s'il dit des bêtises, ou s'il dit des choses qui conviennent ou pas. C'est à vous de vous faire... Et vous avez votre intime conviction. Hein?
Ouais,
à vous de deviner si vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit des bêtises ou qui vous dit la vérité.
Alors Roger Cellier, dans ce cas-là, chacun peut se faire sa propre opinion. Et on ne peut pas sortir une vérité valable pour tous, alors.
La vérité à 100% n'existe pas, c'est comme dans les religions. Toutes les religions connues ou reconnues, elles ont presque toutes un peu de cette vérité. Mais jamais, elle n'est jamais entière, elle n'est pas complète, c'est pas possible. C'est pas possible.
Mmh, mmh.
Quand je vois, par exemple, les prêtres, ou disons la religion chrétienne qui... Maintenant, ça s'est d'ailleurs adouci, avec le père Brune, par exemple. Mais,
oui, le père Brune qu'on a déjà
mais, moi, j'ai essayé de parler de ce sujet-là avec un prêtre, disons, là où j'habite, et dès que j'ai abordé le sujet, il m'a rejeté. Je ne me parlais pas de ces choses-là, des communications avec les morts et tout ça. Bon, vous voyez, on a des attitudes parfois différentes avec tout ça. Selon la personne que vous avez en face de vous.
Oui, oui, c'est une attitude de défense, parce qu'il n'y a pas de réincarnation.
À une certaine époque, c'était considéré comme de la sorcellerie.
Oui.
Et c'était très très mal vu, si vous, éventuellement vous étiez brûlé en place publique.
Mais il y a plusieurs siècles, dans la religion chrétienne, la réincarnation était acceptée, était reconnue, et puis elle a été supprimée pour des raisons de contrôle des masses. On va dire ça comme ça, de prise de pouvoir. Mais s'il y a des invités qui nous ont dit ça, qui étaient des chercheurs et des historiens, ils nous ont dit qu'avant, elle était acceptée, reconnue dans les premiers écrits.
Oui. Moi, je ne sais pas trop quoi penser. Je ne sais pas trop à quoi penser de la religion chrétienne quand ils... Parce qu'ils changent d'avis parfois.
Ça peut évoluer.
Ça peut évoluer, bien sûr.
La philosophie, ça peut évoluer, même si c'est une religion. Si la philosophie qui...
Ça évolue avec son temps.
Avec son temps, oui. Le pape François, actuellement, d'ailleurs, fait évoluer les choses, on peut le dire. Hein, il va plutôt dans le bon sens. Dans le chapitre 5 d'un de vos livres, Enseignements et dialogues donnés par quelques entités, quels enseignements, vous, à titre personnel, vous avez reconnu, et qu'est-ce que vous aimeriez vraiment que les gens prennent comme enseignement de ce que vous avez fait? Parce que moi, avec ce que vous avez vécu, j'aurais envie de hurler au monde, de dire, mais regardez, il y a des choses, arrêtez de... réveillez-vous, quoi. Non?
Oui, je pourrais me comporter comme vous, mais disons que maintenant avec... je sais pas, je vais avoir 73 ans, alors je suis un petit peu fatigué de tout ça. Les gens qui veulent pas en parler, je les laisse tranquilles. Les gens que ça énerve, je les laisse tranquilles aussi. Par contre, si quelqu'un est vraiment ouvert à la question de spiritualité, alors à ce moment-là, je suis tout à fait ouvert et j'adore communiquer de ce genre de choses. Mais c'est pas le cas avec tout le monde. Justement, le doute gâche beaucoup de choses. Et puis, les incroyants, ouais, après nous, quand on meurt, c'est le néant, il n'y a plus rien. Ben non, il y a toujours quelque chose. Je dirais, si, dans tout ça, dans ce qu'ils ont voulu m'apprendre, c'est que si je mène ma vie bien comme il faut, on en est plus ou moins récompensé, disons, dans le genre d'existence que nous aurons après. Voilà. Mm-hmm. C'est le... Allons au plus simple, c'est ça.
Ouais, voilà.
C'est ça. Voilà.
C'est le mieux vivre ensemble, et l'amour, le mieux vivre ensemble, et la bienveillance.
Oui.
C'est ce qui ressort de tout ça, finalement.
Tous ces qualificatifs ressortent, tout à fait. Pensez positif, pas négatif. Et puis, comportez-vous comme vous voudriez, comme on se comporte avec vous. C'est ça. Ça a une grande morale.
Oui, il y a une grande morale, finalement. Hein, une morale qui est faite pour harmoniser et pour le mieux-être de tous, on ne va pas se plaindre, on va l'apprendre, finalement. C'est ce qui ressort souvent d'une démarche spirituelle. On parle aussi, vous disiez qu'il fallait faire attention aussi, de l'illusion de l'illumination. Il y en a parfois qui se sentent illuminés, partir dans la spiritualité. Il y a une illusion là-dedans aussi. Hein.
Oui, je crois qu'il faut rester humble, plutôt, et pas s'envoler comme ça, disons, sur des nuages. Non, il faut rester soi-même, il faut rester les pieds par terre et la tête bien sur les épaules. Faut pas... Ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, quand quelqu'un, disons, a une communication comme ça avec une entité, et que cette entité va lui dire éventuellement pas des obscénités, ce qui arrive parfois, mais ou des vérités, ce qui arrive aussi parfois de la même façon, c'est à lui de deviner, de savoir, de distinguer, de discerner ce qu'il y a de bien à prendre ou pas à prendre du tout. Mais le danger, c'est que la personne qui reçoit pense que ça y est, tout est vrai, et en fait, elle peut, si elle ne reste pas elle-même, si elle n'a pas l'esprit de discernement, ça peut être dangereux. Voilà, parce que il faut pas toujours les croire. Il faut rester, disons, philosophe, rester toujours dans la morale, dans une bonne morale. Et puis voilà.
Est-ce que ça veut dire que avec ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, ce que vous avez enregistré, vous avez serré des mains, donc vous avez des convictions personnelles qui sont des certitudes, il y a autre chose. Est-ce que pour arriver le plus propre possible, on va dire, à la fin de sa vie, le plus clair possible, avec un minimum d'énergie négative, on va dire, par rapport à ses actes. Le moins de méfaits possible sur soi, de moins de nuisances possible. Est-ce que ça veut dire que vous avez sélectionné les gens autour de vous, avec vos amis, avec vos relations de travail? Est-ce que vous avez évité certaines rencontres?
Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question, parce que quand dans une séance, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, il m'est arrivé d'inviter des personnes pendant une séance qui avaient besoin peut-être d'avoir un message, de se communiquer, des gens comme un peu comme moi qui voulaient savoir. Attendez, je ne sais plus où j'en suis là, je me suis perdu un petit peu.
Non, je disais que par rapport à cette philosophie pour arriver donc en fin de vie totalement, ou en tout cas le plus possible...
Attendez, le discernement sur les entités,
voilà.
Il m'est arrivé d'avoir des entités qui arrivaient comme ça, qui s'incorporaient et puis qui venaient se présenter à nous, de façon pas du tout claire, pas du tout
bienveillant,
voilà.
D'accord.
Et à ce moment-là, quand je comprends ce genre de choses, moi je leur dis de se barrer tout de suite. Ouais. Donc si cette entité vient pour nous apporter, disons, des choses ou des enseignements qui sont négatifs, justement, à ce moment-là, moi je leur dis de partir
ouais.
qui nous intéresse pas. Et je demande aussi l'aide des entités présentes de m'aider à faire en sorte qu'ils s'en aillent.
Ah, il y en a qui sont autour et qui attendent peut-être leur tour pour passer dans le médium, dans l'incorporation aussi.
Oui, c'est vrai. Mais si vous avez, disons, pendant la séance, des personnes présentes qui ne sont pas forcément moralement toujours bien intentionnées, bon, ça va attirer des entités comme ça.
Ah ouais, d'accord.
Ça va les attirer. Et ils vont vouloir venir se manifester. Ce qui n'est pas du tout
recommandé
ni intéressant. Mais, alors à ce moment-là, on s'en débarrasse.
Oui. Mais vous, à titre d'homme, dans votre vie d'homme professionnel, privé,
oui.
Vous avez sélectionné peut-être inconsciemment les personnes de votre environnement pour pas être contaminé par de mauvaises énergies, sachant tout ce que vous savez maintenant.
Oui, je n'ai jamais eu peur d'être contaminé par des mauvaises énergies. Je n'ai jamais eu peur de tout cela. Je suppose que c'est l'état d'esprit qu'on a, qu'on l'on possède. Cet état d'esprit va attirer sans doute des entités qui vont venir à vous parce que vous êtes comme ça.
La loi de l'attraction.
Voilà, qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Hein. Si vous avez des personnes dans l'assistance qui n'est pas bien intentionnée, ça va être le négatif. Mais si vous ne pensez pas comme ça, si vous pensez que vraiment vous êtes sérieusement intéressé par leur enseignement et que vous respectez ce genre de communication, à ce moment-là, ils vont venir, ils vont se communiquer à vous. Ça dépend de votre attitude.
Oui.
Ça dépend, disons, de vos convictions. Ça dépend de votre état d'esprit tout court.
Ouais, il faut.
Voilà.
Vous méditez, vous, un peu, pour essayer de vous nettoyer un petit peu les chakras, je puis dire.
Je médite parfois, je pense. Je pense à ces choses-là quand je suis dans mon lit, avant de m'endormir, j'y pense souvent, mais il m'est arrivé aussi d'avoir des choses paranormales pendant mon sommeil, disons, de visiter des endroits que...
Attendez, bah, racontez.
Pardon?
Racontez une sorte de voyage astral?
Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est ponctuel, hein, c'est pas volontaire.
Ils
viennent me chercher et puis ça y est, voilà.
Vous êtes accompagné quand vous le faites? Vous n'êtes pas seul?
Parfois, je suis accompagné. Ouais, c'est très, très rigolo, très drôle.
Qu'est-ce que vous avez visité? Qu'est-ce que vous avez vu?
Alors,
qu'est-ce que vous avez entendu?
Bon, si je peux vous donner un exemple.
Allez-y.
J'avais un ami qui était correcteur au journal Le Monde. Et c'était un très grand ami. Je lui avais demandé de me corriger mon premier livre, L'homme face au paranormal. Puisque c'était son travail, c'était de corriger justement les journaux, etc. Il travaillait au Monde. Hein. Et puis, il m'a dit, ouais, si tu veux, je vais te faire ça, il n'y a pas de problème. Il m'avait fait ça tout honneur, comme vraiment amicalement. Ce n'était pas pour me faire payer quoi que ce soit. Je lui avais donné mon livre et puis il l'avait corrigé. Et je lui avais posé la question, j'ai dit, écoute, tu as lu quand même ce bouquin-là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, oh, il me dit, non, bah, ça m'intéresse. Tu sais, j'ai corrigé de mon livre, j'ai vu ce que c'était, mais cette chose-là, non, pour moi, non, ça existe. Je veux pas parler de ça. Ça m'existe, ça m'intéresse pas. C'est après nous, le néant.
D'accord.
Bah, je voulais pas trop insister, mais je lui avais dit quand même, j'ai dit, écoute, j'y souviens-toi quand même, disons, que quand la vie ici sur Terre sera finie, l'existence va se continuer ailleurs. Mais c'est tout. Je n'en dis pas davantage. Essaye de ne pas oublier. Ça l'avait pas fait rire. Et cet ami en question, il est décédé 3-4 ans après.
D'accord.
Il s'appelait Jean-Claude. Et une nuit, 2 ans après son décès, on vient me chercher. Et je me retrouve d'un seul coup dans un grand hall énorme. comme si c'était un hall de gare, mais là où, comme s'il n'y avait pas de train, quoi, mais il y avait un grand hall énorme, avec des tas de personnes qui se croisaient, qui s'entrecroisaient, qui n'avaient pas de but, qui ne savaient pas où ils allaient. Ils se demandaient ce qu'ils faisaient là, qui s'inquiétaient beaucoup. Et je vois mon Jean-Claude, mon ami, qui était dans l'eau, là, il se dirigeait droit devant lui, et il savait toujours pas ce qu'il faisait là, il se posait des tas de questions, il est complètement perdu, puis alors je me dirige vers lui, je le prends par-dessus le cou, comme ça, on se prend, bras dessus, mais presque, et puis on chemine comme ça tous les deux, je lui dis comme ça, est-ce que tu veux que je rapporte un message à ta famille, à tes proches? Et en fait, il ne m'écoutait même pas. Il était tellement perdu, il se demandait tellement ce qu'il faisait là que... non, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Il ne comprenait rien du tout. Mais rien. Il était perdu. Mm-hmm. Il allait sans but. Il voulait... Il marchait devant lui. Et tous les autres qui étaient là, et c'était
de
pareil.
Même. D'accord.
C'est, en fait, pour moi, c'était comme une salle d'attente.
D'accord.
Avant de passer... devant Saint-Christophe.
Il y avait du monde. Prenez votre
Je ne sais pas si c'est Saint-Christophe, mais enfin, avant d'être. Peut-être de faire le bilan de sa vie à lui.
Peut-être de s'auto-juger aussi.
En attendant, oui, aussi. Hein? Et puis qu'il se réveille un petit peu dans cette nouvelle existence aussi, auquel il ne croyait pas. Et quand on n'y croit pas, on risque de se retrouver dans ce genre
de situation.
D'endroit, de situation. Ouais.
Ah ouais.
Alors finalement, comme il m'a même pas répondu s'il voulait faire un message pour sa famille, je suis reparti et puis hop, je suis retombé dans mon corps, vous savez, comme si on vous avait pris par les jambes et par les bras à l'hôpital là, on vous remet sur le lit, paf, comme ça. Ouais. Ah, je retrouve mon corps comme ça à chaque fois, enfin à chaque fois, pas tellement de fois, mais j'ai eu d'autres.
Déjà, c'est énorme parce que ça se rapporte effectivement à un acte concret sur Terre que vous retrouvez par la suite après son décès. C'est-à-dire qu'il ne croyait en rien tout. Et puis, vous le retrouvez dans cette situation. Donc voilà, on peut se dire qu'il y a un rapport de cause à effet et qu'on espère qu'il ne soit pas resté trop longtemps dans ce moment d'attente et que, voilà, il y a bien quelqu'un qui les informe, hein, j'espère. Sinon, ça va être long l'éternité, surtout sur la fin. Hein.
Il y a tout à fait, disons, un phénomène de cause à effet, comme vous dites. Je m'étais pas posé la question, mais il y a vraiment un phénomène de cause à effet, ouais. Quand vous arrivez là-bas, si vous êtes croyant, ça va très vite. Si vous savez qu'il y a quelque chose après, vous êtes très vite réacheminé dans une autre existence qui vous convienne.
En ce moment, malheureusement, il y a quelques extrémistes qui croient à des choses et voilà, ils croient peut-être pas forcément aux choses qui amènent de la bienveillance sur Terre.
Ouais, ça, c'est sûr.
Hein? Donc voilà, avec les croyances, les religieux. Encore un autre exemple de voyage astral, parce que ça, c'est déjà énorme, ça. Allez, encore un petit souvenir. Mettez-nous l'eau à la bouche encore.
J'étais au Club Med, j'étais géo au Club Med. Je m'occupais, disons, du matériel de plongée sous-marine. C'était en Corse, à Cargèse, à l'époque. Et puis, j'avais fini de manger le midi. Je retourne, disons, à la baraque où j'avais tous les équipements en charge. J'étais responsable de tous les équipements à l'époque. Et puis, en arrivant, j'ai eu, disons, un besoin extrême d'écrire. Fallait que j'écrive. Alors j'ai trouvé un bout de papier, une page de papier blanc, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire.
D'accord.
J'ai commencé à écrire. Et qu'est-ce que j'écrivais? J'écrivais que j'étais, en fait, dans l'eau, que je me baignais, mais que j'étais bercé par les vagues, mais que j'allais mourir et que c'était le nirvana. C'était formidable.
Vous écrivez ça en arrivant au club de plongée, comme ça, paf, d'accord.
Oh, dans la baraque du club de plongée. Après le repas de midi. Et à ce moment-là, j'en remplis toute une page comme ça. Alors c'était beau, c'était formidable, c'était merveilleux. Ça y est, ça les vagues qui m'emmenaient, ce qui me berçait, c'était, je le répète, c'était le nirvana, c'était super. Et peu après avoir fini cette page, j'entends un hélicoptère qui arrive, qui vient se poser sur la plage. Il y avait une butte de sable qui m'empêchait de voir, mais alors je suis passé de l'autre côté, je vois cet hélicoptère Et ils étaient en train de charger un jeune homme qui avait à peu près mon âge, qui venait de se noyer.
Il venait de se noyer. Versé par les vagues, machin, ouais, etc. D'accord. Ouais. Ah ouais, ok.
Et il est mort par hydrocution. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si j'avais vécu sa mort à ce monsieur, à ce jeune homme-là. Vraiment. C'était étonnant. Il était en train de se marier, de se noyer pendant que j'écrivais ce genre de choses.
Ouais.
Je me rappelle, il y a sa sœur qui était venue au club Méditerranée, qui était arrivée le lendemain pour récupérer son frère. Tout ça. Et elle est passée devant ma case, enfin devant la baraque
de plongée.
Baraque de plongée. Et puis. C'est curieux parce qu'elle s'est présentée. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit tiens bon, vous êtes arrivé aujourd'hui, mec. C'est pas en général, c'est en début de semaine. Et qu'est-ce que vous êtes, pourquoi vous êtes là alors? Et elle m'a raconté qu'elle venait chercher son frère. Et là je me suis dit j'ai dû écrire ça pour elle. Et je lui ai donné cette feuille. Je lui ai donné tout ce que j'avais écrit. Ouais. Je lui ai donné à elle. J'ai dit écoutez, ça doit être pour vous ça. Alors voilà.
Waouh, wow. C'est fort, un peu médium quand même, un petit peu, hein, petit
alors,
peu quelque part. Hein.
Je dirais que j'ai pu écrire parfois, disons, par inspiration. Mm-hmm. Hein, il y a des mots, mais c'est ponctuel, c'est pas la demande malheureusement.
Ouais,
mais j'ai des mots qui s'imposent comme ça dans ma tête et il faut absolument que je les écrive. Et après, il y a un autre mot qui va s'imposer, je l'écris aussi encore, sans savoir ce que ça va donner. Et j'ai vu que ça donnait des phrases qui n'avait pas l'air de venir vraiment de mon esprit, quoi. Et je me suis dit, j'écris, c'est pas moi qui écris des trucs comme ça, c'est pas possible. Et il m'est arrivé, principalement avec Blaise, il m'est arrivé d'écrire des choses comme ça. Et c'est lui qui, soi-disant, guidait ma main.
Roger Célier, voilà. Merci pour cette vie d'enquêteur, J'aime pas le mot anecdote parce que c'est réducteur, mais toutes ces expériences, d'avoir partagé toutes ces expériences avec nous.
On peut parler d'expérience. Oui.
Ouais, d'expérience. Et puis, faites-vous votre opinion, réfléchissez, allez voir sur le site, lisez, ressentez. Ressentez aussi, je dis ça à tous ceux qui nous écoutent.
Hein, si on peut utiliser mes archives aussi pour faire quelque chose avec.
Ouais.
Ça devrait certainement intéresser beaucoup de monde. C'est beaucoup plus concret, ça parle beaucoup plus. Et puis on peut mieux se faire une idée de ce que c'est que la médiumnité par incorporation ou la matérialisation, etc.
On va voir ce qu'on va en faire sur BTLV. Merci voilà. Roger. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
On est là pour vous avec Yves Carras sur BTLV.